accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et toutes. En Méditerranée, les sauvetages de migrants qui fuient la misère et la guerre se poursuivent et désormais, chaque arrivée de bateau en Sicile voit débarquer des femmes enceintes par dizaines. Alors, que deviennent ces mamans et comment les aide-t-on à prendre en charge leur enfant? Cécile Debarge s'est rendue au CARA de Mineo, dans la province de Catane. Ce centre d'accueil est le plus grand d'Europe et c'est aussi le seul où une unité spéciale prend en charge les femmes enceintes et les jeunes mamans.
C'est prêt. Oui, tout de suite. Oh, mais ce sont des larmes, des petites larmes.
Le biberon, à peine réchauffé, le voilà aussitôt englouti par miracle. Une petite fille d'un mois à peine, dont la maman a confié la garde pour la journée aux femmes du Punto Mama, le point maman, littéralement, du CARA de Mineo. Ce service, unique en Italie, aide les nombreux parents hébergés dans le centre d'accueil à s'occuper de leur enfant dans ce pays qu'ils ne connaissent pas.
Alors, ça c'est notre petite remise. On a des petits pots, du lait en poudre, des jus de fruits, des couches, ici du lait pour les plus grands, et puis des produits d'hygiène. Le placard est un peu vide, on a fait le tri ces jours-ci et on attend le nouveau stock.
À la tête du Punto Mama, Katiushka Valentino. Elle travaille au CARA de Mineo depuis son ouverture en 2011.
Vous comprenez bien que si c'était moi qui devais aller au Sénégal, par exemple, je n'aurais aucune idée de ce que je devrais faire, par où commencer. Donc on s'est dit que toutes ces notions étaient importantes et qu'il fallait les rendre simples et accessibles pour qu'elles soient comprises par tous. Pour les préparer aussi à la vie qui les attend à l'extérieur, on organise des rencontres où l'on convoque les parents par petits groupes selon les langues qu'ils parlent pour leur présenter tous les services proposés aux parents, aux enfants et aux familles à l'intérieur du centre.
Avant chaque accouchement, les parents sont invités à 4 cours de pédiatrie au programme Conseil pratique sur l'organisation du système de santé italien, sur l'hygiène des bébés, l'allaitement ou encore les droits et devoirs des parents et enfants. Tous les jours, et d'après un menu concocté par le pédiatre, le Punto Mama propose aussi petit déjeuner, déjeuner et dîner pour les enfants de 0 à 5 ans. À l'heure de la distribution, Tella attend avec sa poussette. Elle est arrivée en Italie enceinte de 3 mois et a accouché 5 semaines plus tôt de la petite Aïssoussa. Toute sa grossesse a été suivie de près par les équipes du centre d'accueil.
Ils m'ont régulièrement amenée à l'hôpital pour y être soignée, tous les mercredis.
Felice Enger, nigériane, elle aussi est tombée enceinte au centre d'accueil et a bénéficié des mêmes services que Tella à la naissance de son fils, Michael.
Ils nous donnent tout ce dont on a besoin, des vêtements de bébé, de la nourriture pour bébé. Jusqu'à présent, ils ont pris bien soin de mon bébé.
Au total, le centre d'accueil compte près de 90 enfants entre 0 et 2 ans et le Punto Mama est le point de référence des jeunes parents parmi lesquels de nombreuses mères célibataires. La spécificité du centre est aussi de proposer un accompagnement psychosocial au cours de la grossesse. Avec 350 femmes majeures, dont 150 arrivées seules en Italie, un espace est réservé aux femmes pour y parler notamment de contraception et de gynécologie. Massimiliano Terassi y travaille comme psychologue.
L'arrivée au centre représente un choc pour la femme. Tout le monde parle une autre langue, tout le monde est blanc. Il y a tout un tas de règles, on organise les repas 2 à 3 fois par jour. Elles ne savent pas quoi faire de leur futur. Beaucoup d'entre elles sont complètement perdues. Du coup, ce premier moment est un moment très difficile pour la femme, encore plus si elle est enceinte.
Un déracinement auquel s'ajoute une réalité glaçante. De très nombreuses grossesses sont le fruit de viols. Au moins 80% des femmes passées par la Libye et reçues par les équipes du centre d'accueil ont été victimes de violences sexuelles. La prise en charge de ces femmes est un véritable défi pour le psychologue qui constate de nombreux syndromes de stress post-traumatique.
Les symptômes, ce sont des insomnies, des flashbacks, des cauchemars, des moments de terreur. En ce qui concerne les flashbacks, alors que tout semble normal, d'un coup, la femme revit des moments du passé. Il peut y avoir aussi des dépressions profondes, l'envie de ne rien faire, un sentiment d'impuissance, etc.
Dans ces cas, la prise en charge est particulièrement intense, comme l'explique Giovanna Marletta, assistante sociale qui s'occupe tout particulièrement des femmes enceintes.
En général, nous, assistants sociaux, organisons des entretiens réguliers en compagnie de la psychologue et on essaie vraiment de les soutenir jusqu'au 9e mois, de ne surtout jamais les laisser seules. Et on a eu plutôt de bons résultats. Beaucoup de femmes ont même fini par accepter leur grossesse.
Les lèvres pincées, Giovanna Marletta raconte que d'autres, trop enceintes pour interrompre la grossesse, préfèrent abandonner leur enfant à l'hôpital. Une décision douloureuse et traumatisante à laquelle elle a déjà assisté plusieurs fois, consciente que ce ne serait pas la dernière. Car au cours des dernières arrivées de bateaux sur les côtes siciliennes, les équipes ont noté une augmentation du nombre de femmes enceintes, à un stade toujours plus avancé de leur grossesse.
Depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en Pologne il y a 2 ans, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Elles se sont opposées aux lois restreignant les droits des femmes ainsi qu'au projet de loi menaçant l'état de droit. Une mobilisation engagée mais qui reste malgré tout minoritaire. Aujourd'hui, la contestation trouve d'autres moyens d'expression. Les créateurs de mode commencent eux aussi à faire passer des messages dans leurs collections. Maya Szymanowska les a rencontrés à Varsovie.
Au cœur de Varsovie, la rue Mokotowska est le haut lieu de la mode polonaise. C'est le fief d'Ania Kuczynska qui, après son petit déjeuner habituel au café du coin, court vers sa boutique située au 61 de la rue. Sur les cintres, les petites robes noires, des hauts noirs, des manteaux noirs. Le noir, sa marque de fabrique, a été choisi récemment par les Polonaises comme la couleur de leur mobilisation contre l'interdiction de l'avortement et les attaques contre leurs droits menées par les conservateurs. Ses inspirations, jusque-là littéraires ou géographiques, se sont fait plus engagées avec la mobilisation des femmes.
Regardez cette blouse, elle illustre mon engagement politique, mon envie d'expression pour la cause des femmes. Vous voyez cette inscription ? Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Aujourd'hui, il faut que l'on soit unis pour parler des mauvais traitements ou tout simplement défendre nos droits.
À quelques rues de là, dans un bel appartement tout en noir et blanc donnant sur le parc Łazienki, Michał Wojewski est avant tout graphiste, qui est devenu designer de mode depuis quelques années. Chacune de ses collections est comme un commentaire artistique de l'actualité. Pourtant, Michał n'a jamais pensé s'intéresser à la politique. Mais la floraison des boutiques de mode dites patriotiques, qui vendent des t-shirts aux couleurs du drapeau polonais et des inscriptions nationalistes qui utilisent l'emblème national l'aigle blanc, à tout bout de champ, l'en fait réagir. Sa collection actuelle s'appelle « Who are you ?»« Qui es-tu ?» Le début d'un poème pour enfants que chaque petit Polonais apprenait à l'école.
On ne sait plus qui nous sommes, car on vit à l'époque où les néo-nationalistes fleurissent, ainsi que les boutiques bizarres qui vendent ces vêtements patriotiques. Ils se sont emparés des symboles du pays. Et ce n'est plus possible, comme avant, d'être fier et de porter un haut avec l'aigle blanc que faisait le designer Kupich. À l'époque, tout le monde voulait le porter. Aujourd'hui, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus si on aime cet aigle. C'est pour cela que dans ma nouvelle collection, l'aigle n'est plus blanc, mais noir.
Une grande provocation, sachant que les seuls aigles noirs dans l'imaginaire polonais sont ceux des voisins craints, voire détestés, allemands ou russes. Chacune des collections de Michał de sa marque Uegie a un thème politique ou de société. Il a déjà abordé l'exclusion pour pointer la politique du gouvernement de refuser les immigrés. La prochaine collection n'échappe pas à la règle.
La collection printemps-été de l'année prochaine est consacrée au racisme, car c'est un problème qui s'intensifie ces derniers temps. Et moi, je l'ai relié à la question totalement banale de la couleur de notre peau. La collection s'appelle Colors. Et c'est la première fois que j'utilise la couleur, car d'habitude, j'emploie juste le blanc et le noir. La couleur ne m'était pas utile. Cette fois, la couleur est celle des camouflages. La couleur de la peau est comme un camouflage. Nous disparaissons sous les teintes brunes et beiges. Je voulais que ce soit comme un manifeste de la rue. C'est pour cela que j'ai peint cette collection avec des bombes de couleurs des artistes du street art.
Impossible en effet d'échapper à la politique dans ce pays qui connaît depuis 2 ans un tel virage autoritaire. Les Polonais, qui pourtant votent peu, moins de 50% à la présidentielle et 35% aux législatives, manifestent de plus en plus volontiers leurs opinions en les exhibant sur leurs vêtements. Un début d'une prise de conscience politique passerait peut-être en Pologne par la mode.
So as a tourist, if you're being ripped off by the Prague taxi driver, what are you supposed to do?
Sa voix et son visage sont bien connus des internautes tchèques. Il est aussi la bête noire de certaines professions. Janek Rubesch traque en effet les arnaques dont peuvent être victimes les millions de touristes qui visitent Prague chaque année. Ce jeune journaliste s'est donné pour mission de mettre fin à ces pratiques, payant souvent de sa personne. Alexis Rosenzweig dresse son portrait.
Janek Rubesch s'est déjà forgé une solide réputation à Prague de journaliste intrépide, en mission contre certains fléaux nuisibles à l'image de la ville. Il faut dire que quelques dizaines de chauffeurs ont réussi à donner au taxi pragois une terrible réputation, en passant maître dans l'art des compteurs trafiqués et autres forfaits imaginaires, pour des courses facturées jusqu'à 10 fois plus chères que le tarif normal. Parfois organisées en bande pour verrouiller les quartiers les plus touristiques, ces escrocs n'ont pas vraiment apprécié les méthodes employées par le jeune journaliste, qui n'a pas hésité à appeler la police pour faire constater leurs méfaits. Cela lui a valu quelques empoignades musclées. La maire de Prague n'a pas caché son agacement en interview devant l'empressement du jeune homme à faire cesser les pratiques frauduleuses de ses soi-disant taxis sur la place de la vieille ville, à quelques pas seulement de la mairie. C'est sur cette même place que Janek Rubesch compte l'un de ses autres principaux faits d'armes, à savoir la dénonciation d'un des bureaux au pire taux de change entre euros et couronne tchèque. Il est notamment resté une journée entière devant la porte pour faire fuir les touristes en criant à l'arnaque. Quant à ceux qui sont assez naïfs pour changer leur argent dans la rue, ils peuvent en apprendre davantage sur les ruses employées par ceux qui n'hésitent pas à refourguer des roubles biélorusses sans valeur au lieu de la monnaie nationale. Cette vidéo vient d'être récompensée par le prix du meilleur reportage d'investigation lors d'un récent festival. Les vidéos de Rubesch sont aussi destinées à un public étranger et tournées en anglais. Certaines critiques regrettent une forme de délation. Lui dit vouloir contribuer à donner une meilleure image de son pays. Une autre série de ses vidéos est intitulée « Le guide honnête de Prague » où l'on trouve quelques bons plans pas chers pour sortir de la masse touristique et éviter des abus fréquents.
En Serbie maintenant, l'hippodrome de Belgrade va-t-il pouvoir être sauvé ? Inauguré en 1914, celui-ci est toujours en activité, mais les courses se font rares et le public encore plus, Laurent Angelin.
Après le quartier de Savamala détruit il y a un peu plus d'un an, l'hippodrome de Topšider va-t-il à son tour être victime de l'appétit sans limite des promoteurs immobiliers qui font des affaires dans la capitale serbe ? Le champ de course de Belgrade serait pourtant l'une des 10 installations sportives encore en activité les plus vieilles du monde. Inauguré à la veille de la Première Guerre mondiale, celui-ci n'a jamais cessé de fonctionner, ni durant l'occupation allemande, ni pendant les bombardements de l'OTAN en 1999. Mais en 2018, la concession de 30 ans accordée à l'entreprise publique Beogradski Hippodrome pour exploiter les 28 hectares de terrain arrive à son terme. À l'heure actuelle, seuls 2 employés travaillent sur le site, les écuries sont vides et le complexe menacé par les constructions illégales. Les propriétaires de chevaux ont préféré déménager leurs bêtes à Budapest, Vienne ou Bratislava et seules 2 courses ont pu être organisées depuis janvier dernier. Pour rénover le site, le bureau d'urbanisme de la ville de Belgrade a donc lancé un appel à projet pour la modernisation des infrastructures de l'hippodrome, notamment des gradins et de la loge royale. Mais en coulisses, il se murmure que cette initiative viserait surtout à satisfaire les signataires d'une pétition demandant la protection du champ de course, qui a récolté plusieurs milliers de signatures. Pour ensuite, bien sûr, pouvoir faire des affaires bien plus juteuses.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Laurent.
Votre proposition musicale du jour a un groupe au nom très énigmatique, la Lipuna.
Valérie Trébelliard, il n'avait pas donné de nouvelles depuis 2010 et avait délaissé la musique pour revenir à ses activités de journaliste. Une parenthèse qui se referme avec la sortie de Two Windows, cinquième album de la Lipuna depuis sa formation en 98 à Munich. Un disque aux sonorités synthétiques affûtées, à la fois moderne et fidèle à l'esthétique qu'a toujours travaillé le groupe, celle d'une électropop sensible, engagée, mélancolique et dansante, où il est question de liberté personnelle, de surveillance technologique et de la gentrification des grands centres urbains. Vaste programme, mis en son avec légèreté et finesse.
Time to sit here and watch the world go mad. I'm asking for a break. I'm asking for some rest. Why building houses? I dig a little hole and let dust be the cover. It's a
Daily Black, extrait du cinquième album de la Lipuna, la proposition de Vincent Teval. Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission. À demain.